Saga CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.
On rentre dans le vif du sujet avec une matinée donc consacrée à ce triptyque classique, hein, voir, comprendre pour agir. Les intervenants qui ont été choisis par l'équipe du 5AS qui a préparé la journée vont se présenter à nous. Outre leur curriculum vitae officiel qu'on a sous les yeux, il nous paraît important que chacun de ceux qui sont devant vous à côté de moi, moi qui suis Vincent Thomas, modérateur de cette table ronde, partage le lien qu'il a avec le sujet. L'intérêt qu'il a trouvé à répondre à cette invitation du 5AS, compte tenu de ses travaux, de sa position professionnelle, de ses références théoriques ou de son expérience pratique. Voilà. Donc, on va commencer par ce petit tour de présentation avant l'étape suivante, qui sera une étape d'immersion dans le sujet. Comme l'a dit Brigitte Zimmermann en présentation du programme, nous allons écouter des témoignages qui viennent d'adhérents du 5AS, qui ont été retranscrits par écrit et qui seront lus par des voix neutres. Ces témoignages feront l'objet de réactions à chaud assez simples. On ne va pas élaborer une analyse de chacune de ces situations. Il s'agit de poser le sujet à travers des vécus qui nous reviennent médiatisés, comme je viens de le dire. Ce sera la première heure de notre échange, et l'heure et demie qui suivra, enfin plus tout à fait maintenant, l'heure et quart qui suivra, sera consacrée au développement par nos intervenants, mais sous forme de dialogue entre eux, des trois de la gradation de l'approche du sujet qui est proposée, voir, donc identifier, comprendre, analyser, réfléchir aux causes et dresser, troisième temps, des pistes d'action en introduction à l'après-midi. Mais je précise tout de suite que nos intervenants ne seront pas présents cet après-midi. Donc on a convenu, lors de la préparation de ce temps, de leur donner du temps pour exprimer aussi ce qu'ils ont à nous apporter sur justement ce comportement face aux situations que nous aurons appris à observer, appris à comprendre. Et donc le débat commencera déjà sur les pistes d'action. Il sera prolongé cet après-midi. Donc en tout premier temps, je propose que chacun de vous se présente sous le mode du quel lien j'ai avec le sujet, en quoi il m'intéresse et en quoi est-ce que je peux apporter par mon expérience professionnelle ou mes travaux ou mes réflexions quelque chose à la réflexion collective de la matinée. Voilà, qui veut commencer? Donc Monsieur Léon.
Merci. Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, Xavier Léon, je suis psychosociologue clinicien et sociologue du travail. Je suis chercheur au sein de l'équipe de Paris 7, du laboratoire de changement social et politique. Donc, les grandes figures du laboratoire, ça va être Marianne Dujarrier, Vincent de Goljac. Donc, je suis la nouvelle génération qui arrive. Mes futures publications vont arriver en 2018, donc ça va pas tarder. Donc pour répondre, pour terminer, premier élément, pourquoi je suis ici? Parce qu'on m'a invité, ce sont des étudiants du master coaching et transformation des organisations publiques à Dauphine. Il semblerait que ça l'ait beaucoup plu l'intervention que j'ai pu faire, mais on dit il faut absolument que tu viennes. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on a bossé sur les questions du travail et des organisations. Qui est mon approche, c'est comme ça que je, au fil des enquêtes, au fil des interventions, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je bosse sur ces sujets, hein. Ça date de 98 quand même, hein. C'est une problématique qui nous vient plutôt de la psychopathologie, qui a été reprise effectivement, Christelle nous en dira sûrement quelques mots sur l'aspect juridique, et de fil en aiguille, au fil des enquêtes, ben, ça devenait une problématique incontournable, il suffisait d'écouter les gens pour à chaque fois en parler, tout le temps. Il y avait tout le temps un problème, et d'essayer à un moment de prendre du recul. Donc mon approche, elle est centrée sur la question du travail. Donc ma filiation est du côté Golgiassienne, donc sur l'organisation, etc. Ça ne m'interdit pas, en tant que psychosociologue, d'aller aussi m'inscrire dans une filiation du côté de la psychodynamique du travail, du côté de ce que peut proposer Claude. Autrement dit, j'ai une position de praticien, chercheur. Donc quand on est praticien, la première chose, c'est de pouvoir être en position de répondre à une demande, de la travailler, et après, au-delà des filiations, de voir concrètement comment on peut coopérer pour faire avancer les choses. Juste quelques mots, et je terminerai là-dessus, sur ma grille de lecture, quand vous entendrez, c'est que moi j'ai une grille de lecture sur cette notion de travail assez classique, je la redis, sur la différence entre travail prescrit et travail réel, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup apprécié l'introduction sur la question des désaccords, mais faut-il encore savoir quel est l'objet du débat ? Quel est l'objet du débat ? De quoi on parle ? Et cette première grille de lecture entre le travail prescrit, travail réel, et je rajouterai, et là je l'emprunte à Marine Dujarrier, sur la question du travail vécu, du travail réalisé. Je trouve ça très intéressant en termes d'écoute, quand on est manager, de se dire, quand j'ai mon collaborateur face à moi, de quoi il me parle ? Et est-ce qu'il me parle de l'activité ? Est-ce qu'il me parle des contraintes ? Est-ce qu'il me parle des collègues ? Pour pouvoir recentrer le débat. Parce que je pars d'un postulat assez simple. Quand on échange dans une organisation, de par les différences de culture, de formation, etc., etc., il y a toujours un malentendu. La question, c'est le désaccord, se mettre d'accord, c'est une très belle formule que j'emprunte aussi à un collègue belge, c'est se mettre d'accord sur les désaccords. Hein, je pense que c'est ça peut être un premier élément. Et ce que je voudrais pour finir cette présentation, c'est que mon postulat, dans la tradition où je m'inscris, c'est la solution s'inscrit dans le diagnostic. Donc là, effectivement, pour des soucis pédagogiques et de la conférence, on sépare comprendre, identifier, agir. Mais il me semble avant tout que déjà de poser le bon diagnostic, c'est déjà une manière d'agir, de transformer. Hein, l'acte managérial, c'est un métier qui est centré sur le langage. Je ne vous apprends rien là-dessus. Bon, j'arrête, je reprendrai la parole tout à l'heure. Merci.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Pierre-Olivier Montet, donc, le philosophe de service. Donc, je suis chercheur au fond Ricoeur, du nom de Paul Ricoeur, le philosophe. Et je cherche en particulier dans le prolongement de la thèse que j'avais faite à propos de la pensée politique de Ricoeur, qui n'est pas souvent identifié comme auteur politique, alors que c'en est de grande importance, en tout cas à mes yeux. Et donc je travaille dans le prolongement de cette thèse sur le politique, d'une part, donc dans le cadre du Fonds Ricoeur. Et par ailleurs, j'enseigne principalement à Dauphine, en formation continue, dans des thématiques qui sont soit l'éthique du management, dans des masters qui préparent des futurs directeurs et directrices de centres de soins en particulier, ça s'appelle l'économie et gestion de la santé, et puis dans un autre master qui s'occupe là de problèmes d'EHPAD. Et donc là, ça s'appelle plus largement éthique, accompagnement éthique, bon, à voir avec la fin de vie, avec l'accompagnement social, médico-social, etc. Et puis par ailleurs, dans le prolongement direct de ces activités-là, je fais la même chose, mais dans le contexte de mission et de formation dans des entreprises, dans des associations, et largement dans le monde médico-social. Et ce qui me prépare à ça, alors juste encore un point là-dessus, c'est que ma préoccupation, c'est de ne pas dissocier, enfin il faut les distinguer, mais il ne faut pas dissocier la dimension politique et la dimension managériale. En particulier pour la bonne raison que le management, ça consiste à exercer du pouvoir. Donc manifestement, il y a des rapports, et plus que des passerelles entre eux, il s'agit largement de la même chose. Bon. Et en même temps, le politique, c'est le contexte global dans lequel le management s'exerce. Donc il y a des influences, comme qui dirait. Et on pourrait dire dans les deux sens. On pourrait même imaginer que le management, que le contexte de travail, ce soit le creuset de quelque chose comme le civisme. L'apprentissage au quotidien du compromis, du désaccord, de la parole publique, de la contribution collective, de la coopération, et que l'entreprise, au lieu d'être un endroit où on souffre de harcèlement, soit un lieu où on apprend à devenir un citoyen. Bon, perspective. Voilà, et en fait, m'adossant pour faire tout ça, il se trouve que par ailleurs, j'ai été manager d'entreprise pendant une vingtaine d'années, donc je vois bien de quoi il s'agit concrètement parlant, et je peux bien répondre notamment aux interlocuteurs que j'ai à Dauphine en formation continue, quand ils me disent « on n'a pas de marge de manœuvre ». Ils ont le moral dans les chaussettes, ils viennent exprès suivre un temps de formation en master comme une respiration pour se réorienter après souvent de grosses déceptions ou des espèces de sentiments de désarroi, de dire mais je ne fais pas le métier que je voulais exercer. Ce n'est pas ça du tout qui se passe comme prévu. Que faire? Et donc l'idée, c'est proposition, et donc on aura l'occasion de le développer ce matin, c'est on peut dire qu'il existe peut-être toujours une marge de manœuvre en toute situation, dans la mesure où ça concerne la relation humaine. Et que là, on a toujours une marge de manœuvre sur la manière de faire, la manière de dire, sur le style d'agir, et que là, c'est une façon de désengorger les choses et de se donner une respiration et de peut-être d'élargir l'horizon, s'apercevoir qu'il n'est pas si bouché que ça. Voilà.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Christelle Mazat, je suis avocat au barreau de Paris. Pour reprendre un petit peu ce qu'ont dit mes deux partenaires, je suis aussi également une praticienne ancrée au quotidien dans le concret de la souffrance au travail, spécialisée donc depuis près de 15 ans sur le droit de la fonction publique uniquement, c'est 100% de mon activité. Et au fil des années, donc ayant démarré ma carrière peu après la promulgation des lois sur le harcèlement moral notamment, j'ai fait un constat assez rapide, c'est qu'il y avait très peu de choses sur la fonction publique et adaptées à la fonction publique. Ce qui fait qu'en parallèle de mon activité praticienne, je dis même clinique, puisque j'ai une activité très très proche de celle des services de psychologie au travail, avec qui je collabore énormément d'ailleurs. Donc au fil de ces années, il a fallu développer une pratique d'avocat, j'allais dire, très spécifique aux clients qui venaient à mon cabinet. Et surtout, aujourd'hui, parfois, je me sens un petit peu comme les secouristes devant Irma, pour reprendre malheureusement un drame actuel et de ce jour, où l'ampleur de la souffrance au travail est telle qu'on est très peu de spécialistes et la justice a, hélas, peu de réponses à apporter à ces conflits qu'on retrouve actuellement à l'hôpital, mais dans toute la fonction publique en général et également dans la justice, qui a un mode de fonctionnement d'ailleurs assez proche de celui de l'hôpital, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, pour répondre très précisément dans le cadre de ma présentation, donc je suis l'auteur de plusieurs publications sur le sujet. Je n'ai pas de statut de chercheur. Déjà, j'ai plus trop le temps, j'allais dire, étant assez prise par mon activité d'avocat, de rentrer dans vraiment la publication de fond. Mais j'essaie quand même de transcrire mes observations cliniques. Pour essayer d'alerter, de changer des comportements. C'est vrai que sous l'étiquette d'avocat, on met souvent l'agressivité, le contentieux, le conflit. Moi, je ne suis pas partisane du conflit judiciaire dans ce type de dossier. Il y a énormément de solutions à trouver en interne. Et ce qui passe pas seulement par la prévention aujourd'hui, mais par la compréhension des situations de crise et des solutions qui soient vraiment adaptées à la fonction publique. Et pour reprendre ce que vous disiez sur la compréhension des désaccords, en fait, réhabiliter les désaccords, il y a quand même un principe dans la fonction publique, on est très lié par une organisation hiérarchique, pyramidale et légale, hein, puisqu'on n'est pas dans la souplesse du contrat de travail, on est dans le statut. Il y a une notion qui affronte un peu l'exercice de l'autorité hiérarchique, c'est le devoir d'obéissance. Et jusqu'où va finalement l'obéissance hiérarchique? Et ça vaut beaucoup pour les directeurs d'hôpitaux, parce qu'on met beaucoup en avant la souffrance des personnels de santé, qui est évidemment réel, et on pense peu aux managers qui sont pleins de bonnes intentions, mais qui sont sujets et soumis constitutionnellement aux politiques publiques. Donc les ordres viennent d'au-dessus, et ils sont un peu pris entre le marteau et l'enclume, j'allais dire, sur exécuter les ordres, et constater que les ordres ne sont pas toujours bienveillants, ou humains en tout cas. Donc c'est un peu toute la problématique. Le droit est un système binaire, il fonctionne par cases, donc c'est binaire, hein, c'est oui, non, faute, pas de faute, responsabilité, pas responsabilité. La vraie problématique que j'ai dans mon quotidien et devant les juridictions, c'est comment appréhender une dimension psychologique qui ressort de la communication entre deux entités et deux mondes parfois qui ne se comprennent ou ne s'entendent pas. Comment appréhender par un système binaire quelque chose qui, par nature, relève de l'accident en fait, et de l'humain. Voilà. Et c'est toute la difficulté du droit dans ce type de situation qui rend mon travail très compliqué au quotidien, les juges eux-mêmes parfois ne sachant pas vers quelle direction aller, et dont on reparlera donc après un peu plus dans le détail.